Terroir Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 18 décembre 2023. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. En Guinée, au moins 13 personnes ont été tuées dans l'explosion, puis l'incendie du principal dépôt de carburant dans le centre de Conakry. En République démocratique du Congo, fin de campagne avant les élections générales du 20 décembre. Israël a poursuivi ses bombardements massifs sur la bande de Gaza. Dans le dossier du jour, la ville de Ouida, au Bénin, capitale mondiale du vaudou. Notre correspondante nous amène à la découverte de la divinité Mamiwata. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. En Guinée, 13 personnes ont été tuées et 178 autres blessées après qu'une puissante explosion et un incendie dans le principal dépôt du carburant du pays ont secoué le centre de Conakry tôt lundi, causant des dommages importants. Nathalie Barge.
De nombreux blessés ont été envoyés dans les hôpitaux Ignace Dine et Donka. Le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles et a demandé aux travailleurs de la capitale et ses environs de rester chez eux. Il a invité les populations des zones proches du sinistre à s'éloigner du site pour leur propre sécurité et pour permettre aux services d'opérer sans encombre. Le feu était toujours actif en fin de matinée dans la zone portuaire, après avoir baissé en intensité. Des dizaines de véhicules de la protection civile et des camions de la Société nationale des eaux sont sur place. Des moyens supplémentaires sont en cours d'acheminement pour contenir l'incendie et minimiser ses conséquences. La zone portuaire est bouclée par les forces de sécurité qui ont érigé des barrages filtrants sur plusieurs kilomètres. Une forte odeur de carburant brûlé se dégage sur les lieux. Les stations-service vont rester fermées pendant plusieurs heures. Le quartier portuaire, habituellement bondé, était déserté ce matin. Des dizaines de personnes ont quitté le centre-ville pendant la nuit, tandis que d'autres restent dans leurs habitations. Une enquête va être ouverte pour situer les causes de l'incendie et les responsabilités, a indiqué le gouvernement.
Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à un léger remaniement de son gouvernement. La ministre des Affaires étrangères, Olivier Rouamba, en poste depuis mars 2022, avant l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, cède sa place à Karamoko Jean-Marie Traoré, qui était jusqu'à présent en charge de la coopération régionale. Aucune raison officielle n'a été donnée pour ce remaniement. En République démocratique du Congo, la campagne pour les élections du 20 décembre se termine ce lundi. Pas moins de 44 millions d'électeurs seront appelés aux urnes. Durant un mois, les quelques 100 000 candidats engagés dans la course pour la présidentielle, les parlementaires, les provinciales et les municipales n'ont ménagé aucun effort pour convaincre les Congolais. Les précisions de John Lydon, envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa.
Les états-majors politiques et les candidats mettent fin à leur campagne électorale ce lundi. Les regards sont tournés vers le 20 décembre, jour des élections. Les candidats ont chacun promis à des degrés divers des solutions à la question de l'insécurité dans l'est du pays, celle du chômage et les infrastructures routières, scolaires et hospitalières. C'est aux électeurs que revient le dernier mot. Pour la première fois, les Congolais de la diaspora auront le droit de voter dans 5 pays. Pour la présidentielle, un scrutin à un seul tour, les candidats les plus en vue sont le président Félix Tshisekedi, qui brigue un second mandat, l'homme d'affaires Moïse Katumbi, l'opposant Martin Fayulu et le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Lors d'une conférence de presse cet après-midi à Kinshasa, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a réitéré son engagement à œuvrer pour un scrutin transparent et assurer les meilleures dispositions possibles pour permettre des conditions de vote idéales à tous les électeurs. John Lydon, envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa.
Le Kenya se dissocie fermement d'un opposant congolais qui a annoncé à Nairobi la création d'une alliance politico-militaire contre le gouvernement du président Félix Tshisekedi. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale de la RDC, devenu opposant et désormais en exil, avait annoncé vendredi à la presse dans un hôtel de la capitale kényane la création d'une alliance avec au moins 9 groupes armés dont la rébellion du M23. L'objectif serait, selon lui, de sauver la RDC et d'y garantir le retour de la paix. Kinshasa avait averti Nairobi de conséquences diplomatiques. En Ouganda, la Cour constitutionnelle a commencé ce lundi l'examen d'un premier recours contre la loi anti-homosexualité votée en mai, qui a suscité l'indignation des organisations de défense des droits humains et entraîné des sanctions américaines. Baptisée loi anti-homosexualité 2023, un délit d'homosexualité aggravé est passible de la peine de mort. Le président Yoweri Museveni a assuré qu'il ne céderait pas aux pressions pour faire abroger ce texte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été réélu pour un troisième mandat avec 89,6% des voix. C'est au moment où l'Égypte traverse la pire crise économique de son histoire. Le point avec Nanit Talani.
Le résultat du scrutin, qui s'est déroulé du 10 au 12 décembre, est largement prévisible, dont ses chefs de l'armée a fait campagne contre un petit groupe de candidats très peu connus. La participation a atteint un taux sans précédent de 66,8% parmi les 67 millions d'électeurs égyptiens, a affirmé le chef de l'autorité nationale des élections, Azem Badawi. La réélection de M. Sisi ne faisait guère de doute dans ce pays en proie à de multiples crises allant du pouvoir d'achat à la guerre dans la bande de Gaza voisine. Pendant 10 ans, la répression de l'opposition a éliminé toute concurrence sérieuse pour M. Sisi. Son administration a vu l'emprisonnement de milliers de prisonniers politiques. L'espace de dissidence s'est progressivement réduit. À la tête de l'Égypte depuis une décennie, Abdel Fattah al-Sisi, 69 ans, va débuter en avril son nouveau mandat, censé être le dernier, conformément à la constitution égyptienne.
Le président russe Vladimir Poutine a salué lundi la victoire convaincante de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. M. Poutine a salué la contribution du président al-Sisi au rapprochement entre leurs pays respectifs, réaffirmant sa volonté de poursuivre un travail commun. En octobre 2018, M. Sisi, dont le pays est depuis longtemps un grand allié des États-Unis, a signé un accord de coopération stratégique avec Vladimir Poutine. De nouvelles frappes israéliennes ont fait des dizaines de morts, selon le Hamas, dimanche et lundi, dans la bande de Gaza, où Human Rights Watch accuse Israël d'affamer délibérément la population. Sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité devrait examiner ce lundi une nouvelle résolution pour un cessez-le-feu. Abdourahmane Dia.
10 jours après un veto américain, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce lundi sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza, au moment où Washington appelle son allié israélien à limiter les victimes civiles. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, est en Israël ce lundi. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé que 110 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens à Jabalia, dans le nord, dont 50 sont morts dans des frappes sur des maisons. Par ailleurs, l'organisation Human Rights Watch a accusé ce lundi Israël d'utiliser la famine des civils comme technique de guerre dans la bande de Gaza occupée, ce qui constitue un crime de guerre. Le gouvernement a qualifié Human Rights Watch d'organisation antisémite et anti-israélienne, rejetant catégoriquement ces accusations. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est à nouveau engagé ce dimanche à se battre jusqu'au bout pour éliminer le Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël.
Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, en visitant Israël, a déclaré que la guerre contre le Hamas est une opération israélienne et que sa visite n'a pas pour but de fixer un calendrier ou des conditions lors d'une conférence de presse avec son homologue israélien. La Corée du Nord a tiré ce lundi un missile balistique de longue portée potentiellement capable de frapper les États-Unis, ont annoncé la Corée du Sud et le Japon. Le missile a pu parcourir 1000 km avant de s'abîmer dans la mer du Japon. Il pourrait voler plus de 15 000 km et dans ce cas, tout le territoire des États-Unis serait à sa portée, a fait savoir un haut responsable japonais. Ces tirs interviennent quelques jours après des mises en garde de Séoul et Washington qui ont averti Pyongyang que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. À présent, la minute éco avec Nani Kalani.
Au Cameroun, retour à l'ancienne formule d'importation des carburants. Le président Paul Biya prescrit la libéralisation qui prévalait jusqu'en 2019 et qui a été abandonnée après l'incendie de l'unique raffinerie du pays. Pour régler la crise du carburant, Paul Biya a mis fin au monopole consécutif à la pénurie que subit le pays depuis des semaines. La décision de libéraliser les importations de carburant fait un grand perdant, c'est le groupe Total qui avait le monopole. Le Kenya et l'Union européenne ont signé ce lundi un accord commercial. Cet accord de partenariat économique garantit aux produits kényans un accès libre de droits et son quota au marché européen et des réductions tarifaires pour les produits européens à destination du Kenya. C'est le début d'un partenariat historique pour une transformation historique, a déclaré William Ruto lors de la cérémonie de signature du texte à Nairobi. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié ce partenariat de gagnant-gagnant. Pour terminer, selon le magazine Jeune Afrique, le bras de fer franco-russe connaît un virage commercial en terre africaine. Au Maroc, en Algérie, en Égypte ou en Afrique de l'Ouest, les exportations mensuelles de blé tendre français sont sur une tendance baissière pour la campagne 2022-2023. Selon Alexandre Marie, chef analyste au sein du cabinet Agritel, la Russie peut réaliser un record d'exportation de 49 millions de tonnes de céréales contre 48,1 millions l'an dernier. La part de marché de la Russie approche pour la deuxième fois un quart du commerce mondial.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Oui, bonjour Ozine et bonjour à tous.
Pour commencer, la CAN, c'est dans 3 semaines et la CAF annonce la date de la soumission des listes pour les sélections.
Oui, ce sera 10 jours avant le début de la compétition, plus précisément le 3 janvier 2024. Les 24 sélections devront présenter leur liste définitive à l'instance fêtière. A noter qu'il y aura de grandes nouveautés pour cette saison. Les sélectionneurs peuvent convoquer jusqu'à 27 joueurs au lieu de 23 précédemment. Toutefois, seuls 23 joueurs seront sélectionnables pour chaque match.
Ballon rond toujours, Al Ahly du Caire est à un pas de la finale au mondial des clubs en Arabie Saoudite.
Le club égyptien, vainqueur 3-1 second tour d'Al Ittihad d'Arabie Saoudite, affronte ce lundi en demi-finale les Brésiliens de Fluminense. Les champions d'Afrique n'ont jamais atteint la finale du tournoi, mais ont terminé troisième à 3 reprises en 2006, 2020 et 2021. L'autre demi-finale aura lieu demain et opposera Manchester City au japonais Urawa Red.
Dans le reste de l'actualité sportive, lisez du basketball et on connaît le premier qualifié pour la finale de l'Africa Women's Basketball League qui se dispute en Égypte.
Tout à fait. Ce sont les Kenyans de KPA victorieuses dans un match serré des Rwandaises d'Energy Group score 101 à 97. La seconde demi-finale se joue entre le club hôte, le Sporting Club d'Alexandrie et les Angolaises d'Interclubé. A noter qu'en match de classement de la 5e à la 8e place, Equity Bank a battu 75-54 les Camerounaises de l'Université de Douala. Défaite également de l'autre club camerounais, Overdose, qui s'est incliné 58-67 devant les Nigérians de Customs.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero de retour avec vous. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, au moins 13 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion du principal dépôt de Conakry. Le drame s'est produit dans la nuit du dimanche au lundi. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Selon la police, 11 personnes ont péri dans l'explosion dans le dépôt de carburant de Kaloum. Une chaîne de solidarité est lancée depuis le matin au palais du peuple de Conakry, où les victimes reçoivent des assistances de plusieurs natures.
Il faut que l'État nous aide, parce qu'à l'heure là, c'est difficile. Toutes nos maisons sont gâtées, tout. Télévision, congélateur. C'était venu à 2h06. On est tous couchés.
C'est aux environs de minuit que le feu s'est déclaré dans le grand dépôt de carburant de Conakry. Un incendie qui a surpris des familles, certaines en plein sommeil. Ce proviseur s'en est sorti avec plus de chance.
J'ai dormi. C'est le bruit qui m'a fait réveiller. Et je me suis réveillé sous des combles. Le plafond, tout est tombé sur moi. Et c'est Dieu seul qui m'a sauvé. D'ailleurs, c'est les enfants qui sont venus me faire sortir. La seule chose que j'ai pris, c'est mon téléphone. Parce que ça, c'était à côté de moi.
L'origine de l'incendie n'est pas toujours connue. Le gouvernement guinéen a annoncé des enquêtes. Les sapeurs-pompiers étaient encore en action il y a quelques heures pour venir à bout du gigantesque feu visible à des centaines de mètres. Le colonel Mohamed Camara est directeur général de la protection civile.
Notre travail ici pour le moment, c'est pour éviter la propagation vers les autres bâtiments. Parce que l'endroit, il y a la cité à côté, il y a la maison centrale, il y a les bâtiments d'habitation.
Les travailleurs des secteurs publics et privés ont été priés de rester chez eux. Les écoles et stations-service sont restées fermées ce lundi. Des mesures annoncées par le gouvernement guinéen en attendant une maîtrise totale de la situation. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Les candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo ont tenu leur dernier meeting lundi après une campagne tendue qui s'est déroulée dans le calme malgré les doutes sur la possibilité d'organiser le vote à temps. Certains Congolais de la province du Nord Kivu occupés par le M23 ne pourront pas voter mercredi. Plus de détails avec Blanche Sanou.
À la présidentielle, en RDC, élection à un seul tour, le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, 60 ans, brigue un second mandat de 5 ans. Il fera face à 18 candidats. Après un mois de meeting, la campagne s'est terminée sur des promesses des principaux candidats comme Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege.
Si vous me faites confiance, vous serez heureux. Faites-moi encore confiance et vous verrez que nous bâtirons notre pays ensemble. Dès que je prendrai mes fonctions de président, je vais créer un fonds spécial pour le Nord Kivu et l'Ituri.
Nous allons ramener l'unité nationale aujourd'hui. Depuis le départ de Mobutu, si nous pouvons nous souvenir de lui pour une seule chose, c'est quoi? L'unité nationale.
Donnez-moi le pouvoir de diriger ce pays et je mettrai fin à la guerre. C'est la première chose à faire.
La campagne électorale s'est déroulée dans un calme relatif. Le doute qui planait sur l'organisation de ces élections s'est levé lorsque l'ONU a accepté la requête du gouvernement pour un appui logistique. Les jeunes Congolais ont déclaré qu'ils ont de grands espoirs que leur vote leur offrira un avenir meilleur. Alfred Bopando, chef d'entreprise de finance et de communication.
Pour le président qui sera élu, moi j'attends beaucoup de lui. Je serai très exigeant. Pourquoi? Parce que lors de la campagne, on les attend tous dire
accueil, ils vont vraiment changer les choses.
L'association Human Rights Watch a alerté sur les violences électorales qui risquent de compromettre la tenue du scrutin. Les combats se sont calmés depuis environ une semaine, mais les rebelles continuent d'occuper de vastes pans du Nord Kivu dans lesquels les habitants ne pourront pas voter.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Le 9 et 10 janvier 2024, la ville de Ouida au Bénin sera la capitale internationale du Vaudou. Un parcours du centre-ville au bord de mer permettra une immersion dans les rythmes, chants, danses et symboles du Vaudou, appelé Vaudoun Days. L'événement fera découvrir au monde la pluralité et la diversité des divinités dont regorge le panthéon vaudou au Bénin. Ginette Fleur Adondé, notre correspondante à Cotonou, nous amène à la découverte de la divinité Mamiwata, présentée comme celle qui gouverne la richesse. Voici son reportage.
Le Bénin, malgré sa grande histoire avec le christianisme, reste, selon les gardiens de la tradition, une terre du vaudou, et ceci à travers une multitude de divinités. Selon les adeptes, le vaudou Mamiwata, dont est la mère de toutes, avec un contrôle absolu sur la santé, la fécondité, la beauté et la richesse.
Dieu a fait ce monde et a confié chaque compartiment à des entités données. Alors, l'entité qui consiste, l'élément qui consiste la mer, est donné à cette entité qui est Mamiwata. Donc, tout ce qui regorge dans la mer est gouverné par Mamiwata.
C'est la divinité de l'océan et c'est la déesse des eaux. C'est notre divinité dans la, qui est toujours Mami. C'est le devoir dit dans Mami.
Originaire du royaume de Dahomey, le vaudou Mamiwata est devenu celle qui est la plus célébrée à Ouida en raison des millions d'esclaves qui y ont transité avant leur déportation. À partir du 18e siècle, ce culte compte aujourd'hui plus de 50 millions de membres à travers le monde. Prince Zélika parle des spécificités de la divinité.
D'abord, la divinité d'An est la divinité dépositaire de la richesse, de l'opulence sur cette terre. Si vous voulez avoir la richesse matérielle, financière, et la richesse n'est pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi en connaissance, elle est aussi en sagesse. La divinité d'An est dépositaire, mais surtout, c'est le côté financier et matériel qu'on voit. Donc, D'An est la divinité par excellence de la galanterie, de la propreté extrême. Lorsque vous êtes incarné par la divinité d'An, vous allez voir, ce sont des gens qui sont propres, qui aiment le chichi. Ils aiment les parfums haut de gamme, ils aiment la propreté extrême. Lorsque vous allez chez eux, tout est au point. Ils n'aiment pas être souillés. Ils aiment là où il y a la clarté, il y a la vérité. Ils sont au-dessus de vérité. Ils n'aiment pas l'injustice.
Au Bénin, toutes les familles sont presque touchées par cette divinité. Ce sont généralement les femmes qui sont les adeptes, même si les hommes ne sont pas exclus. Certaines l'acceptent facilement comme entité qui les gouverne, mais d'autres, comme Alice, y sont forcées après avoir essuyé de nombreux échecs, et ceci suit tous les plans.
C'était depuis mon jeune âge qu'on a senti l'histoire. Une petite fille, quand on me met les perles le matin, avant midi, je crois que je perds beaucoup de poids et les perles s'enlèvent de moi. Je ne prends jamais de poids. Et un midi du retour de l'école, la circulation a coupé complètement, il n'y avait plus de passants. J'ai rencontré un monsieur long, d'un certain âge, qui n'est pas habillé mais vêtu de blanc. Il m'a arrêté pour me dire, toi, si tu rentres, dis à tes parents, s'ils ne se réfèrent pas à ce qui t'incarne, tu vas beau étudier, mais tu n'auras pas satisfaction.
La suite, ce sera une initiation au couvent pour la jeune fille qui aujourd'hui est à son aise et ne juge que par la divinité Mamiwata. Mais toutes les familles n'acceptent pas de voir leurs enfants gouvernés par une telle entité et livrent contre elle un combat à coups de prières et de rituels. Mais pour Onogan Adodo Tchatula, prêtre Mamiwata, toute résistance est vaine.
L'être qui est Mamiwata, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi d'être Mamiwata, mais il est né avec, c'est dans son sang. Mais un prêtre, un pasteur, est-ce qu'il va changer l'état du sang de la personne? Est-ce qu'après avoir fait la prière, le groupe sanguin de la personne change? Il ne peut pas changer l'état de la personne, ce qu'il est, ce à quoi il est lié, c'est impossible.
Pour Ounon Bembeza, il est temps que certains Béninois cessent d'avoir honte de ce qu'ils sont. Pour lui, le Bénin est une terre de vaudou et la multitude des fidèles chrétiens qui combattent les religions endogènes n'y changeront rien.
Nos aïeux, nos aînés, nos ancêtres avaient trop occulté
insulté notre culte. Et les gens ont eu le temps de nous diaboliser, de nous coller des étiquettes qui ne nous représentent pas. Alors aujourd'hui, nous qui avons eu la chance d'aller un peu à l'école, on a décidé de communiquer autour du culte vaudou. Nous voulons faire savoir tout le monde que vaudou est la religion la plus proche de vérité.
C'est d'ailleurs conscient de la vitalité et de l'importance de son patrimoine culturel et culturel que le Bénin a décidé de mettre en valeur cet héritage qu'il en partage avec de nombreux pays et cultures du monde en s'affirmant en tant que berceau du vaudou. De Cotonou, Jeanette Fleur dans les Pouvoirs.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad sur 93.1 FM.
Plus de 8 millions d'électeurs sont allés aux urnes hier pour faire leur choix de la forme de l'État. Après le vote des nomades samedi, c'est la population civile qui a voté dimanche. Un référendum qui permettra de se prononcer soit pas pour l'État unitaire décentralisé et l'État fédéral. Un scrutin qui divise les Tchadiens et risque de jouer sur le taux de participation. André Kodmandigar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Après 2 ans et demi du régime militaire, le Tchad s'achemine vers le retour à l'ordre constitutionnel, bien que plusieurs acteurs, dont l'ancien premier ministre Albert Paimi Padaké, ont appelé au boycott. Quelques électeurs ont fait le déplacement dans plus de 22 700 bureaux de vote installés sur l'ensemble du territoire. Le président de transition, Mahamat Idriss Déby, qui a accompli son devoir civique dans un bureau de vote installé devant son palais, estime que ce dimanche 17 décembre est une journée historique et pleine d'espoir pour les Tchadiens, puisque c'est un grand pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Il se réjouit de ce pari gagné.
Je suivis avec une très grande attention la campagne référendaire. Et le constat que j'ai fait, la campagne s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Donc, en tant que président et garant de la transition, je veillerai personnellement à ce que le choix souverain du peuple tchadien soit respecté.
C'est dans le bureau de vote numéro 30 situé au quartier Abénan, dans son fief électoral, que Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, est venu accomplir son droit civique.
Vous vous souvenez qu'il y avait des constitutions qui ont été approuvées sans le référendum. Ces constitutions ont quand même permis à de nombreuses personnes d'être candidats aux élections. Nous avons lutté pour obtenir le droit de faire voter la constitution par un référendum. Je crois que chaque Tchadien a le devoir, en tout cas d'accomplir ce devoir citoyen.
Quelques électeurs se sont prononcés sur le déroulement de ce scrutin.
Ils nous ont plusieurs fois appelés à la manifestation et voilà, les événements se sont passés. Nous avons ramassé les risques. Je m'abstiens, ni oui ni non.
J'ai accompli mon devoir citoyen. Et cela nous permettra, n'est-ce pas, de refonder notre pays et, n'est-ce pas, de la doter d'une constitution qui s'inspire de la constitution de 96. Donc moi, je suis un partisan de oui, parce que c'est une constitution qui prend tout en compte.
Moi, j'ai voté non. Plus c'est faux, parce que chaque fois, c'est les mêmes personnes, ces mêmes gens qui ont le pouvoir jusqu'à jour pendant 30 quelques années, là, c'est faux quand même.
Docteur Succès Mastra répond à ceux qui pensent que voter oui pour cette constitution, c'est cautionner la dynastie au Tchad.
La constitution, ce n'est pas le choix des dirigeants. Certains veulent aller peut-être vite en besoin. La constitution doit permettre à chaque Tchadien, chaque Tchadienne qui demain réunit les conditions de pouvoir être candidat. Ensuite, quand on viendra aux élections, on saura qui les Tchadiens décideront pour les diriger. Donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection.
Le scrutin s'est déroulé dans le calme entre 6h et 17h, heure de N'Djamena. Les partisans de l'État unitaire chantent déjà la victoire, mais la véritable bataille reste le taux de participation, comme en témoignent quelques présidents de bureaux de vote.
On a commencé à 6h. Les gens viennent voter normalement. Qui ont les photos mais qui n'ont pas les cartes d'électeurs aussi, qui sont nombreux là même, et on ne peut pas les laisser voter.
L'engouement n'est pas tellement vif ici, vu la liste qu'on nous a donné ici, de carré 12 à 110 à 120 électeurs sur la liste. Mais depuis 6 heures maintenant, jusqu'à là, on n'a pas pu encore enregistrer 50 électeurs.
Il appartient à la commission chargée d'organiser cette consultation populaire, de trancher, mais pas avant une semaine. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezello, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X, Instagram pour l'actualité 24h/24.